19h-20h. Les informés.
Je souhaite que chacun se reprenne.
Avec Adil Farkan.
Je vous demande de vous arrêter.
Sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous. Ravi, je rigole, vous savez pourquoi? Parce que c'est Raïd Chaïbi et sa voix de 19h. Ça y est, c'est le début d'une grande histoire qui s'annonce entre Raïd Chaïbi et Beurre FM. C'est parti, vous le savez, nous sommes mardi. Et qui dit mardi, eh bien tout simplement, nous sommes ensemble durant une heure. Et durant une heure, eh bien jusqu'à 20h, au sommaire, ce que je vous ai préparé, eh bien un petit retour de trois sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. À Sevran, justement, une incompréhension après la mort d'un homme tué par un policier. Et vous savez, c'est l'escalade. On en parle dans une poignée de minutes avec Amal Bentoussi. Amal Bentoussi, la figure qu'on connaît, que je ne présente même plus, qui a créé le collectif Urgence, notre police assassine. Elle sera avec nous pour parler de cet événement sur la ville de Sevran. Autre sujet qui a retenu notre attention, vous le savez, eh bien c'est plus que jamais le pouvoir d'achat encore et encore. Parce que les Français sont préoccupés par leur panier, préoccupés par leur avenir, préoccupés tout simplement par son présent, puisque la gestion familiale devient de plus en plus compliquée entre la hausse du gaz, la hausse de l'électricité, la hausse du carburant, la hausse tout court de notre vie. Eh bien, comment doit-on trouver des solutions, évidemment, pour mieux s'en sortir? C'est la question qu'on pose tout à l'heure. Ensuite, autre sujet. Ah, c'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà, il a fait une petite déclaration. Amnistier les gilets jaunes, tous les gilets jaunes. Mais quelle drôle d'idée, clochette. Mélenchon, il a décidé, là, ça y est, il veut mettre le paquet, lui, il veut se faire élire. Hein. Bon, Mélenchon, on y va seul, tranquille. Hein. Vous allez y arriver, vous êtes déjà pas mal sur les sondages, ça monte, c'est vrai. On en parle tout à l'heure avec les débatteurs influenceurs, justement, qui seront sur le plateau avec nous. À 19h, l'invité Amal Bentoussi, puis vous, au 01 53 48 3000, eh bien, vous venez, vous commentez l'actualité avec nous. J'ai envie de vous dire, les informer, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h, 20h, les informer avec Adil Farkan.
On essaie de joindre Amal Bentoussi, notre invité. Amal, si vous nous entendez, nous tentons de vous joindre, justement. Et pour parler de ce qui s'est déroulé à Sevran, on essaie de la joindre. Donc, on va y arriver. Je vais parler de Sevran. Il y a les auditeurs aussi qui nous appellent au 01 53 48 3000. Les incidents, je voudrais juste rappeler tout simplement ces incidents à Sevran après la mort d'un habitant tué par un policier. Moi, j'avoue, j'ai vu la vidéo, elle est assez... bon, je veux pas la commenter, mais c'est vrai que ce qui s'est passé, ça mérite quand même une grosse enquête. À Sevran, où les violences urbaines ont repris, puisque les habitants du quartier des Bodottes sont en colère après la mort donc d'une figure connue du quartier qui a été touchée par le tir d'un policier qui tentait de l'interpeller. Et c'était le petit frère donc des Bodottes, c'est comme ça qu'on le surnomme, en Seine-Saint-Denis, disent qu'ils le connaissaient bien et que ce jeune homme de la boxe en passant par le foot le décrivent comme souriant, comme bonne humeur. Ben, on va tenter de comprendre en tout cas ce conflit qui s'est déroulé donc sur la ville de Sevran après cette incompréhension après la mort d'un homme tué par un policier, un père de famille qui avait eu des démêlés qui avait eu d'ailleurs des démêlés de justice avec la justice par le passé. Eh bien, on va en parler. Ce que je vous propose, c'est simplement d'essayer de retrouver Amal Bentoussi. Je voudrais juste qu'on marque une courte pause pub et on se retrouve pub peut-être pas, mais pause musicale, juste le temps de retrouver notre invité. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et il est 19h08 précisément, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, c'est les informer, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et c'est parti pour l'invité du jour.
Les informer, l'interview.
L'interview, c'est avec Amal Bentoussi que vous connaissez, qui est à l'origine du collectif Urgence, notre police assassine. Bonsoir Amal Bentoussi.
Allô, oui, bonsoir.
Bonsoir, merci d'être... Oui, très bien, parfaitement bien. On vous connaît évidemment pour vos positions, on vous connaît aussi notamment pour votre combat, Amal Bentoussi, puisque vous avez lancé plusieurs alertes et vous êtes à l'origine aussi de plusieurs aussi de manifestations, et puis vous avez dénoncé pas mal de choses à Sevran. Aujourd'hui, eh bien, nous parlons, vous savez quoi, d'une nouvelle violence, incompréhension après la mort d'un homme tué par un policier. Vous avez suivi, vous êtes au courant de cette affaire Amal Bentoussi avec évidemment ce jeune tué par un policier?
Oui, bien évidemment que je suis en alerte à chaque fois qu'il y a mort d'homme. Donc je suis assez attentive à ce qui se passe. Et notamment depuis 2017 et notamment depuis la réforme, la loi qui est venue réformer la légitime défense, la loi 2017-258 du 28 février 2017, donc qui, dans son alinéa 4, précise que lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Donc en fait, cette loi, elle a été promulguée dans un contexte d'attentat suite à la pression des syndicats policiers sous le gouvernement de François Hollande, oui. Monsieur Valls, aussi notamment Monsieur Valls. Et donc, on avait été nombreux à dénoncer, puisqu'on avait lancé une pétition, parce qu'on le voyait arriver, ce truc. Et juste, je dois préciser que cette loi, le projet de loi au préalable, il avait été calqué sur l'affaire de mon frère, il y a quelques années, et il demandait même à ce qu'il y ait une anonymisation des noms de ces policiers qui viendraient à être mis en cause dans ce genre d'affaires. Oui. Et donc on avait alerté l'opinion publique, et j'ai l'impression qu'on n'a pas été assez entendu, que ce soit par le public, mais aussi notamment les politiques, parce que c'est vrai que depuis des années on dénonce, mais j'ai l'impression que les gens ne prennent pas conscience que cette loi est un véritable permis de tuer, que c'est vraiment une atteinte à la vie et que les policiers deviennent du coup juges et bourreaux. Donc en une fraction de seconde, ils peuvent décider de tirer sur quelqu'un parce que ils ont cette loi qui est avec eux et ne se préoccuperont plus de savoir s'ils sont en état de légitime défense ou pas. Et c'est bien là le problème.
C'est bien là le problème. Des violences urbaines ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre, Amal Bentoussi, dans le quartier, justement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces habitants, à ces jeunes, justement, s'ils vous écoutent ce soir dans Les Informés, sur Beurre FM?
Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ils doivent se mobiliser. Ils doivent se mobiliser pour la manifestation de la vérité et de la justice. Que la famille ne doit rien lâcher, surtout, qui doivent être accompagnés d'avocats qui ne laisseront rien passer et essaieront de démonter la version policière qui, malheureusement, on le sait, même quand il y a une information judiciaire qui est ouverte par le parquet, souvent ça se termine par des non-lieux. Et c'est ce dont j'ai peur, encore une fois, à cause de cette loi.
Oui.
Et moi, je demande à ce qu'il y ait une mobilisation collective de la part de l'opinion publique, mais aussi de certains dirigeants politiques pour demander l'abrogation de cette loi, parce que c'est une...
C'est ce que vous demandez, c'est ce que vous demandez ce soir.
Tout à fait, tout à fait. Après, bien évidemment, quand les quartiers se révoltent, on va parler de barbarie à l'égard des policiers, mais est-ce que la véritable barbarie, c'est pas d'avoir légiféré sur une loi qui peut porter atteinte à la vie d'un homme parce que parce qu'il ne se serait pas arrêté en voiture. Et je tiens à préciser aussi l'importance de l'information, parce que je trouve que cette loi, on n'en a pas assez parlé, et que souvent dans la tête des gens, que ce soit dans les quartiers ou ailleurs, pour eux, les policiers ne peuvent pas tirer sur un véhicule qui prend la fuite. Mmh. Donc il faut savoir que depuis cette loi, c'est possible, puisqu'elle est venue modifier l'usage des armes à feu. Donc au même titre que les gendarmes, aujourd'hui, un policier peut tirer sur une voiture en fuite. Donc ça, il faut bien le rappeler à la jeunesse, à nos jeunes, à toutes les personnes qui ont cette méconnaissance du droit. Et c'est bien là le problème. Et nous, on note une nette augmentation d'usage des armes à feu depuis cette fameuse loi avec notre association, qui est l'Observatoire national des pratiques et des violences policières. Et je tiens à préciser aussi qu'on est à l'origine de l'application UVP, Urgence Violence Policière, qui permet de filmer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, rappeler qu'on a le droit de filmer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions, puisque dès la sortie de cette application, il y avait eu tout de suite un projet de loi, et notamment l'article 24, qui voulait interdire un droit qui est fondamental, qui est la liberté d'informer. Et ça, c'est important de le dire aussi, et d'être vigilant aussi à chaque fois qu'on a affaire à la police, même si la majorité des policiers ne sont pas tous des tueurs assermentés. Mais bien évidemment que cette loi permet à certains de régler des comptes dans les quartiers notamment, et c'est bien là le problème.
Merci Amel Bentoussi d'avoir été avec nous. Vous êtes donc à l'origine et la fondatrice du collectif Urgence Notre Police Assassine. Merci d'avoir été avec nous pour évidemment cet éclairage sur les événements qui se déroulent en ce moment sur la ville de Sevran. Merci Amel Bentoussi, à bientôt.
Voilà. En tous les cas, une grande solidarité et toutes mes condoléances à la famille de ce jeune homme, et je reste à leur disposition pour un éventuel soutien ou de conseils, parce que je suis passée par là et je sais ce qui les attend.
Merci Amel Bentoussi. 19h15, merci à vous. 19h15, on marque la première pause pub. On se retrouve avec les débatteurs tout de suite après. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Il est 19h22, le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face, vous le savez, on débute sans vous oublier. Au 0153 48 3000, vous pouvez nous joindre au standard au 0153 48 3000. Jingle.
0153 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
L'acolyte de Rayed Chaibi, qui est le président de l'association franco-tunisienne, pardonnez-moi, c'est Ménad Ouchenir, l'ancien élu de Rosny-sous-Bois. Bonsoir, monsieur Ménad.
Bonsoir Adil, bonsoir tout le monde.
C'est une première, là, mais vous avez l'habitude, vous connaissez l'ambiance. Hein.
Oui, j'ai déjà eu le plaisir de...
Oui, vous connaissez l'ambiance, vous connaissez le climat des informés, donc bienvenue.
Merci, ça m'a donné envie de venir.
C'est ça, exactement. Rudy Kazi, comment ça va?
Très bien.
Ouais, plusieurs casquettes, Rudy, tout le temps. Je perds moi dans toutes vos casquettes.
J'en ai une.
Je sais que vous êtes élu. Voilà, un élu déjà.
Ouais.
Voilà. Rappelons la ville.
Saint-Germain-l'Herpajon.
Il y a l'AEF.
91, ouais, délégué général de l'AEF, ouais.
Et il y a d'autres casquettes aussi, il me semble, non?
On va dire moins officiel, mais
les politiques ils aiment bien les casquettes, Farid, non? Ils adorent. Ils adorent les lisses, si elles t'attendent, nanani, nanala.
Il y a pas
de
bonne école, Rudy.
Il y a pas de gros salaire à la clé là. Ça va.
Pour l'instant.
Farid Temsamani, consultant, comment ça va?
Très bien, merci. Salut Adil.
Tout va bien.
Multicasquette aussi, Farid.
Là, il en a présenté qu'une.
J'en ai présenté qu'une, mais je crois pas qu'il fasse de la politique.
J'en ai d'autres moi derrière.
Vous avez envie de faire de la politique? Un jour, non?
Sur mon nom?
Ouais.
Ah, je m'y suis essayé une fois.
Vous n'avez pas envie d'être député, vous, non?
De député?
Oui.
Franchement, si on me le proposerait, je dirais pas non, mais franchement, je cherche pas forcément à le devenir.
Ouais. Non, la politique, ça vous donne pas envie?
Non, la politique, c'est une appétence personnelle.
Hein.
J'ai tellement travaillé avec des femmes et des hommes politiques Que je suis pas un bon profil, je suis pas bankable comme on dit.
Bankable, c'est pas mal ça, c'est dans les médias ça, vous savez ce terme, je l'ai entendu. Bankable. Allez tout de suite messieurs, nous allons démarrer avec ce tout premier sujet. Vous savez, c'est à Sevran avec ses différents incidents, à Sevran avec des nuits de violence urbaine après la mort d'un homme par un tir, la mort d'un homme par un tir de policier messieurs. Et ça, on revient encore, vous savez, on revit ces tensions qui sont en permanence tout le jour avec cette relation police habitants, police jeunesse. Et j'ai l'impression et j'ai le sentiment, alors d'un côté on dit que les policiers sont pas formés, suffisamment formés pour ce type de, évidemment, de gestion, je dirais, concernant donc le rapport avec les jeunes et cette gestion de violence. Et puis de l'autre côté, cette proximité qu'on avait tissée, souvenez-vous, il y a quelques années, qu'on avait réussi à mettre sur pied. Que se passe-t-il franchement? Et je crois que la question que je vous pose, messieurs, aujourd'hui, que reste-t-il à faire? Rudy Casitien.
Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un homme qui est mort, déjà, donc faut pouvoir présenter les condoléances à la famille, quel que soit son profil, délinquant, pas délinquant, en tout cas, par rapport à la dignité.
Et la mort, c'est toujours
avoir,
terrible.
Par rapport à la mort, effectivement, il n'y a pas de délinquance ou quoi que ce soit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'apparemment, c'est une affaire donc de délit de fuite jusqu'ici. C'est la version donc officielle de la police, mais il y a l'IGPN qui a été saisi pour une enquête en interne. Ce qui veut dire que il y a peut-être le soupçon d'une bavure. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas, mais si l'IGPN a été saisi, c'est bien qu'il faut étudier. Il y a quand même la mort d'un homme derrière. Ensuite, pour répondre à votre question, cher Adil, il faut dire quand même que ces réalités dans les quartiers, elles existent depuis longtemps. La surmédiatisation et Internet fait qu'on en parle de plus en plus. Est-ce qu'il y a une recrudescence des violences dans les quartiers? Enfin, en tout cas, en tant que, sous forme d'émeutes. Je parle pas des violences dans la société qui, elles, ont augmenté. Je vais pas vous refaire ce terme d'ensauvagement de la société qui ne concerne pas que les quartiers, d'ailleurs. Là-dessus, qu'il y ait une augmentation ou pas, de toute façon, ça voudrait dire qu'on est en échec. Et quand même, sur les relations entre la police et la jeunesse des quartiers, il y a encore un gros travail à faire. Vous parliez éventuellement de formation. Moi, au sein de mon association, effectivement, on discute sur le cadre dans lequel les policiers sont amenés à évoluer et la formation qui n'est pas toujours au niveau. Souvent, pour tout ce qui concerne les quartiers, ça va être quelques heures à peine sur tout un cursus de formation de policiers. Et du côté de la jeunesse, il y a un recul, hein, de toute façon, des valeurs, on le dit. Hein. Peut-être aussi dû au fait qu'il y ait de plus en plus de parentalité seule, des enfants qui parfois n'ont pas aussi l'autorité d'un papa pour pouvoir être cadrés. Donc c'est des situations qu'on ne voyait pas il y a 20 ans. Moi, là où j'ai grandi à Châtillon, c'était pas forcément ces réalités-là. Nous, on se cachait. Quand les darons, comme on les appelait, sortaient du travail, j'ai l'impression que il y a un recul au niveau de la société, la capacité en fait à pouvoir cadrer des jeunes et leur inculquer en fait une éducation qui leur permettrait d'échapper à la réalité des quartiers. Mais du côté des policiers aussi, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire en termes de formation. Par exemple, chez les policiers, il est interdit de tutoyer. On voit régulièrement des policiers qui tutoient.
Qui tutoient
des jeunes
régulièrement.
De quartier. Je dis pas
qui tutoient intempestif voilà. Comme ça. On va faire un tour de table justement. Ménad Ouchenir justement, et ensuite après Farid Tamsamani. Ménad.
Merci Adil. Effectivement, alors moi je ne partage pas tout ce qui vient d'être dit, très simplement, sur les valeurs, etc., sur les quartiers notamment. On a les caméras effectivement omniprésentes lorsque ce genre d'événement survient, mais où sont-elles le reste du temps? Ça va être ma première question. Et pourquoi? Parce que depuis des années, il y a des politiques publiques avec des succès relatifs, certains plus importants que d'autres, qui sont mis en œuvre. Il y a de l'argent qui est mis dans les quartiers. On ne peut pas dire qu'ils aient été abandonnés de la République, comme on peut l'entendre ça et là. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un soufflet qu'il ne faut pas laisser retomber. Et ce dont on s'aperçoit avec cette médiatisation, cette surmédiatisation de ce type d'événement, parce qu'on parle de Sevran, mais il ne faut pas oublier Tremblay et Aulnay-sous-Bois, c'est que finalement, on ne voit cette surmédiatisation que quand il y a des événements effectivement de ce type-là, négatifs. Où sont les caméras? Première question, lorsque de très belles choses...
Ah, la question a toujours été posée, effectivement.
...se produisent. Ensuite, sur l'influence, les valeurs, le recul des valeurs, là encore... Faut relativiser. On a quelques fauteurs de troubles dans des quartiers. Mais il faut arrêter de prendre les quartiers comme un bloc monolithique. De la même façon qu'il faut arrêter de prendre la police comme un bloc monolithique. C'est des professions avec des gens, des humains. Vous avez autant d'individualités qui s'expriment. Et le nombre de jeunes dans les quartiers qui font bien autre chose que créer du trouble pendant que d'autres le font est beaucoup plus important. Donc on est sur des rapports, là encore, de visibilité qui sont très défavorables à ces quartiers. Et puis, entre nous, la Seine-Saint-Denis, là aussi, est toujours le département qu'on aime mettre en avant pour ce genre d'événement. Ça rejoint la première question qui est de savoir pourquoi est-ce qu'on ne met pas en avant le reste. Voilà. Après, on pourrait parler de beaucoup de choses sur la relation avec les policiers, etc., qui ne sont pas toujours...
On va en parler. Je voudrais juste faire le tour de table et faire tourner le micro. Farid Temsamani.
Adil, tout à l'heure, tu as fait référence notamment à ma petite expérience politique, et il se trouve qu'elle était à Sevran. Et en fait, je suis toujours proche de certains Sevranais, et il m'arrive encore d'y aller très souvent. Malheureusement, il se trouve que j'étais quasiment sur les lieux quelques temps après ce drame-là. Donc, je voudrais juste dire deux choses au-delà de ma compassion et de présenter mes condoléances naturellement à la famille et à l'ensemble de la ville, parce qu'en fait, la ville est sous le choc. Ouais. Il faut quand même le préciser.
Ils sont sous le choc, c'est vrai.
Ils sont sous le choc, et contrairement aux spéculations des uns et des autres...
Il a été mortellement touché par balle, quand même. Hein.
Contrairement aux spéculations des uns et des autres, en fait, personne ne sait
précisément... C'était un contrôle qui a mal tourné, je le rappelle.
Personne ne sait. Même sur ce point-là, oui. Adil, en fait, il faut...
Il y aurait délit de fuite, mais bon.
Il faut laisser le temps de l'enquête, parce qu'en fait, beaucoup de choses circulent. Et moi, je pense qu'il faut avoir du respect pour ce jeune homme. On a parlé d'un certain nombre de choses qui concernent notamment les quartiers populaires et parfois même Sevran. Je voulais juste rappeler que ce jeune homme-là était quelqu'un qui travaillait, n'était pas un délinquant.
Un père de famille.
Un père de famille. C'est quelque chose qui aurait pu...
On le décrit comme quelqu'un de...
Presque arriver à n'importe qui d'entre nous dans ces territoires-là. Il faut quand même le rappeler. Maintenant, le sous-jacent qui est... l'exercice de la fonction de policier, notamment dans ces territoires-là. Elle est difficile.
Oui.
Elle est extrêmement difficile. On parle
c'est ce
de
que
Sevran,
rappelait Ménade, exactement, au Chénier.
Sevran, est, malheureusement, parfois, a été, parce qu'elle a été abandonnée, là, du coup, je suis désolé, mais elle a été abandonnée par certains politiques, et notamment ceux qui ont les clés de la
depuis
ville.
Depuis déjà à l'époque, là, par l'ancienne maire écolo.
Exactement.
Il avait alerté. Comment il s'appelle son nom? J'oublie
Monsieur
son
Gatignon.
Nom. Gatignon. Stéphane Gatignon.
Ouais, Stéphane Gatignon.
Mais je me souviens déjà, il y a plus de 10 ans, Stéphane Gatignon avait
tout le monde
tiré la sonnette d'alarme.
De la fin.
Absolument, je
mais
me souviens
fait,
de ça, moi.
Il faut savoir une chose.
Donc les choses n'ont été, hélas.
Mais pourquoi
c'est
parce
que,
d'une part,
la même chose.
C'est peut-être pas le moment, mais il y a une incompétence d'un certain nombre d'élus. Alors la démocratie, elle est ce qu'elle est, c'est qu'ils gagnent les élections.
Ah,
il
a une clochette.
Il y a une incompétence. Allez, ensuite, il y a quoi? Moi, c'est un territoire, en fait, Adil, tu le sais très bien, moi, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie. Sevran, j'ai retrouvé, quand j'ai découvert Sevran, j'ai découvert Mantes-la-Jolie, mais quasiment 20 ans en arrière.
20 ans en arrière?
20 ans, pour pas dire 30
alors
ans en arrière.
Alors que Valfouré, ça a une sacrée réputation, il y a 30 ans.
Pourquoi je dis ça?
C'est ça.
Enfin, 20 ans.
Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est pas une question d'étiquette politique.
Oui, oui.
C'est une question de volonté et de compétence. Lorsque vous n'avez
pourquoi
pas
ce fossé, ce décalage de 20 ans
parce que la rénovation urbaine n'a pas été réalisée à Sevran. Elle commence depuis quelque temps à peine à être réalisée. Et quand vous avez un problème aussi important que le logement, l'emploi, je rappelle juste une chose, Sevran est collé.
Vous pouvez débattre, il n'y a pas de souci.
Avec une ville qui s'appelle Tremblay. Tu as fait référence tout à l'heure à Tremblay sur,
c'est
à Tremblay.
Qui sont touchées.
Tremblay est une des villes les plus riches de France. Sevran est à quelques kilomètres, à vol d'oiseau, même pas.
À quelques encablures.
Voici Charles de Gaulle. Je peux vous dire une chose, voir autant
mais
de misère,
pas de ce bassin de développement économique.
Autant de misère, autant de paupérisation dans un territoire comme celui-ci n'amène malheureusement,
abandonné.
Pour moi, clairement abandonné.
Abandonné.
Maintenant, il y a une difficulté sur Ménade. Les policiers, c'est une évidence.
C'est une évidence. Ménade, au Chénier.
Ouais, quand j'entends effectivement ces discours-là, il y a une question aussi qui me vient à l'esprit, c'est que pourquoi tout attendre des pouvoirs publics? Pourquoi tout attendre de la mairie? Pourquoi tout attendre de l'État? Et où est effectivement...
Mais il parlait de rénovation urbaine, c'est important, mon cher Ménade.
Parce que ce sont les logements sociaux.
Il vous a fait la comparaison. La métaphore, elle est quand même énorme. C'est-à-dire qu'il vous parle de Mantes-la-Jolie, et il vous parle de la comparaison avec la ville de Sevran. Ce qui le renvoie à 20 ans en arrière. Vous imaginez?
Mais c'est des logements sociaux, elle dit, donc il y a forcément une responsabilité de l'État. Enfin, en grande partie. Donc c'est juste pour répondre à ce que tu disais, parce qu'il ne faut pas tout attendre.
La mobilisation aussi des habitants est aussi capitale. À un moment, on parlait des élus qui sont effectivement compétents. Ce qui arrive.
C'est comme les émeutes au Bosquet. Il y a des parents qui essayent d'intervenir.
Il y a un tissu associatif.
Pas, on s'écoute, s'il vous plaît. Ménade dans l'ordre, Farid et Rudy.
Ma question, c'est simple, c'est ces élus qui ne sont pas forcément compétents. Et on peut le reconnaître, puis parfois ça se voit sur le terrain. Pourquoi
c'est ce
sont-ils
que pointe
réélus
du doigt Farid Temsamani.
Comment sont-ils réélus? C'est plus la question à se
vous
poser.
Vous êtes un ancien élu.
Absolument. Et
donc ce, alors, la question se pose.
Bah, moi, je peux c'est que la mobilisation, la mobilisation des habitants est capitale. Les taux de participation reflètent quand même un désintérêt de la population de la chose politique. Ça, on l'a tous constaté, en particulier en Seine-Saint-Denis, mais pas que. Donc, cette baisse de la participation, je vais être très cynique, mais pourquoi des élus se donneraient du mal si avec 10 ou 15% du corps électoral, ils sont réélus?
Non, mais alors...
Non, attendez, pardonnez-moi. Farid, dans l'ordre, et ensuite Rudy.
Ah, mais non, mais c'était moi qui...
Non, Farid, vraiment Farid. Juste, il voulait répondre d'une phrase, je vous redonne la parole.
Première chose. Premièrement, à Sevran, il y a des gens formidables. Il y a un tissu associatif extraordinaire. Je peux en citer...
Non, vous voulez répondre sur l'incompétence des élus.
Des amicales de locataires qui font un travail extraordinaire.
Moi, je vais répondre.
Il y a des associations comme ID qui font un travail extraordinaire. Clairement, il y a des gens magnifiques qui font un travail. Maintenant, pourquoi il y a une responsabilité des élus et notamment de l'État et des pouvoirs publics? Parce que tout simplement, ce sont des citoyens et que les collectivités touchent, perçoivent une dotation de l'État au titre de ces habitants-là. Donc moi, je suis pas d'accord lorsqu'on dit qu'en fait, il faut pas tout attendre de l'État. Moi, je vais même dire, il faut attendre plus de l'État et des pouvoirs publics dans ces territoires-là. Maintenant, pour revenir à pourquoi ils votent toujours, notamment ces élus que moi j'estime incompétents, pourquoi ils sont toujours élus.
Ça va faire débat, ça vous le savez, ça.
Il y a du clientélisme.
Ça se rend, c'est très écouté.
Je vais vous dire quelque chose.
Ça fait débat.
Le clientélisme, il n'est pas toujours légal.
Qui nous appelle?
Il est même parfois même pénalement répréhensible. J'ai vu des choses à Sevran en 2014 où clairement on a acheté des voix. Il faut le dire comme un nom.
Si seulement c'était qu'à Sevran.
Alors Rudy Kazi, si seulement c'était que ça. Alors allez-y. Pourquoi alors? Pour quelle raison il y a
C'est malheureusement des. En fait, moi je trouve que par exemple le discours qui consiste à dire que il faut que la population se mobilise pour contrer, c'est. Je suis d'accord dans l'absolu. Mais comme en réalité en fait les responsabilités sont quand même partagées, mais elles sont quand même plus du côté des politiques qui maîtrisent l'appareil politique et qui savent tirer des partis en fait des abstentions et etc pour se faire réélire avec une petite majorité, c'est eux qui sont responsables de ces situations là parce qu'une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent par pur clientélisme etc, mais en fait ils se désintéressent totalement des quartiers qui sont paupérisés dans l'absolu. Ces quartiers ne sont pas motivés à pouvoir se mobiliser électoralement parlant pour renverser une élection. Au contraire, on va aller voir des leaders, on va dire, dans ces quartiers, on va les approcher par pur clientélisme de façon à faire voter quelques jeunes de quartier ou la plupart, puisque là c'est des villes où il y a quand même aller jusqu'à 40-50% de logements sociaux. Donc la bascule, elle se fait là. En fait, c'est comme si on cherche à abrutir les gens de façon à mieux les exploiter. Et puis après, certains jeunes de quartier vont se plaindre. Mais en réalité, à l'intérieur même des quartiers, il faut une organisation. Dans les quartiers, il faut être en capacité de dire, voilà, là, il y a tel jeune de quartier qui, en réalité, a des connivences politiques qui nous desservent de façon générale, et voici, il y en a d'autres qui cherchent à se battre tous les jours, de finir des études, de travailler comme ils peuvent, etc. Il faut, en réalité, je pense, arriver, en fait, à séparer, vous voyez, le blé de l'ivraie, en fait, à l'intérieur même des quartiers. Mais le problème, c'est que la jeunesse des quartiers n'est pas aidée pour faire cette séparation-là.
On continue d'en parler, et évidemment,
et moi,
les questions...
Ce que je dis souvent même à des rappeurs, vous savez que j'ai de la famille dans la musique, des anciens rappeurs, je leur dis, mais où est votre conscience politique de l'époque? Il faut aller voir ces jeunes de quartier pour créer un front politique qui va permettre à ces jeunes...
J'ouvre
de
l'antenne justement, Rudy et tous les autres, au 01 53 48 3000, et j'interpelle nos auditeurs justement de la ville de Sevran, et je sais qu'on est très écoutés aussi sur la ville de Sevran, appelez-nous au 01 53 48 3000, les auditeurs de Sevran et d'autres aussi d'ailleurs, tous les autres quartiers de France, pour venir participer à ce débat. On va parler de pouvoir d'achat, messieurs. Là aussi, autre question épineuse. Oui, on est en plein dedans, c'est la campagne. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
19h43, on va parler de pouvoir d'achat et on va profiter, vous savez, Emmanuel Macron, le président candidat, était en déplacement hier à Dijon. Il a été interpellé donc sur la question, et bousculé même d'ailleurs sur la question du pouvoir d'achat. Écoutons ce court extrait et on revient en parler.
On gagne 4000 euros par mois. Vous savez quoi? Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste zéro. Zéro, c'est-à-dire qu'il me reste rien.
C'est ce que vous décrivez?
Voilà. Je fais quoi? Et je ne suis pas le seul. J'ai plein de collègues, j'ai plein d'amis qui sont dans le même cas.
Non, mais donc,
c'est ça qui n'est pas normal.
Il n'y a pas de recette magique. Non mais ça c'est vrai, sur les prix, sur l'essence, le gaz, Il n'y a pas de recette magique parce qu'on ne les produit pas. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit acheter moins bas. Ça, c'est pour ça qu'on se bat en européen, ça paraît un peu technique. Mais il faut que nous, on aille réussir à moins dépendre de la Russie, à réussir à faire baisser les prix en achetant mieux. Premier point.
Macron, il est confronté à des réalités là, parce que la hausse du gaz, du pétrole, de l'électricité, tout simplement, pouvoir d'achat. Là, on peut considérer quand même que ça y est, on rentre véritablement, c'est son premier bain de foule, hein, premier véritable bain de foule à Dijon, où le candidat Emmanuel Macron, moi pour moi, je considère que là, il est, voilà, il est véritablement lancé dans sa campagne sur et interpellé sur le pouvoir d'achat. Alors, Ménad ou Génère ?
Oui, merci. Alors, le pouvoir d'achat, je crois qu'il a été interpellé avec ça depuis les Gilets jaunes. Il faut se rappeler les origines de ce mouvement. Entre autres, il y a eu l'augmentation à l'époque de quelques
centimes. Sauf que là, on est à quelques semaines du premier tour.
Du prix de l'essence, voilà. Donc, je pense qu'il a été interpellé très tôt dans le mandat, si ce n'est que c'était aussi un thème de la campagne de 2017, un thème phare. Donc, je pense que ça fait pas mal d'années qu'il a...
Non, mais sauf que là, les Français, ils n'arrivent plus à vivre.
Bien sûr.
Ils n'arrivent plus à vivre. Les revenus ne suffisent plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Parce que là, par rapport à l'époque des Gilets jaunes, la situation a...
Elle a changé. C'est plus du tout. Là, on n'est pas à l'époque... Ménade, c'est pas à l'époque des Gilets jaunes, maintenant. C'est fini.
Enfin, le mouvement, lui, persévère. Il avait fait référence au fait qu'il fallait être moins dépendant des énergies ou des matières premières qui pourraient provenir de Russie, effectivement. Mais effectivement, en France, pour le coup, on n'a pas de gaz. Donc, on discute avec les Américains depuis récemment. Je me demande aussi pourquoi on ne discute pas davantage avec l'Algérie, qui est un grand pourvoyeur de gaz. Et le fait de devoir s'affranchir effectivement de certaines dépendances qui nous sont un peu toxiques, pour moi, fait partie des quelques solutions. Après, d'autres solutions sur le fait de consommer mieux et d'avoir recours à des énergies plus propres et plus saines, ça va aussi permettre de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière de ces énergies-là.
Sauf que ce père de famille, c'est la réalité de tous les pères de famille, de toutes les familles justement, qui dit tout simplement ne plus parvenir à vivre avec ses seuls revenus et qu'aujourd'hui la situation, elle commence à être alarmante. Il était en colère, hein, Rudy Cazité. On fait un tour de table.
Bah, évidemment, on peut comprendre.
Mes amis, ça va s'empirer cette histoire.
Bah, évidemment.
Ça va être violent dans les mois à venir.
Bah, le truc quand même,
c'est
que.
C'est ce qu'on vous dit pas.
On arrive quand même à. Là, en fait, la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron coïncide avec une augmentation de ce sentiment en fait de déclassement économique des Français. Voilà. L'augmentation du prix du pétrole n'est pas, elle est concomitante, on va dire, avec la situation, entre guillemets, en Ukraine, mais elle avait commencé avant. Ok. Oui. Donc là, maintenant, on a une espèce d'accélération d'augmentation qui vient mettre un peu plus à mal le pouvoir d'achat qui, lui, déjà n'avait pas particulièrement augmenté.
Oui.
Donc, ça pousse, en fait, à se poser des questions plutôt, en fait, sur les décisions économiques que la France a prises et sur celles que le président Emmanuel Macron était censé prendre. Donc là, il se propose un nouveau dispositif pour les 5 prochaines années, mais en réalité, ça, c'est pas anormal que sa campagne se fasse sur un bilan. Si vous voulez, en fait, les revendications de ces gens qui sont des Français de tous les jours viennent en fait comme pour rappeler le bilan d'Emmanuel Macron qui pèse pas en réalité sur la balance, et ça se voit ne serait-ce que par rapport à la situation économique d'aujourd'hui qui aurait pu être amortie si on avait réussi en fait à réellement relancer l'économie de ce pays. Moi, je trouve que les indicateurs qui sont donnés soit par l'INSEE etc donnent l'impression effectivement d'un regain, mais ça se traduit pas dans la vie de tous les jours, dans le pouvoir d'achat. Il y a une inflation galopante d'ailleurs qui va atteindre des pics cette année en 2022. Très très honnêtement, on s'y retrouve pas. Alors je veux bien qu'effectivement le président soit plein d'enthousiasme, qu'il soit en campagne, donc du coup il est obligé d'aller se montrer sur le terrain et donc d'être abordé sur la question du pouvoir d'achat, parce que à un moment donné le costume donc d'homme d'État qui président donc de l'Union européenne jusqu'au mois de juin, ça s'entend, mais à un moment donné, il faut pouvoir revenir dans l'arène pour être confronté aux réalités des Français. Et c'est ces réalités-là aussi qui donnent le ton et le qui doivent donner le ton de la campagne. Donc quand par exemple Marine Le Pen commence à remonter un peu dans les sondages parce qu'elle a axé sa campagne sur le pouvoir d'achat, mais c'est tout simplement parce qu'elle a le bénéfice de n'avoir jamais été au pouvoir et d'avoir une ligne entre guillemets éditoriale qui ne concerne que les classes populaires.
Sauf que quand il reste Emmanuel rien
Macron,
pour
le
vivre.
Le discours d'Emmanuel Macron ne concerne pas les classes populaires.
Absolument.
De façon générale.
Farid Tamsamani.
C'est pas anormal ce qui se passe.
Farid Tamsamani, est-ce qu'il n'y a pas ce risque justement d'une violence qui risque d'être inouïe ? C'est-à-dire ça va monter de plus en plus ?
Bon, premièrement, la violence, c'est ce que les citoyens subissent.
Quand on n'a plus rien dans le frigo, ça se transforme par de la violence.
Je rappelle juste une chose, c'est que en Provence, très souvent...
C'est une phrase de Mélenchon, ça.
On utilise... Ouais, mais c'est malheureux que ce soit Mélenchon qui ou comme tu citais Mélenchon, ou alors Marine Le Pen, qui véritablement se prennent à bras le corps ce sujet du pouvoir d'achat. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que quand vous êtes en province et que pour aller bosser, vous faites 20-30 km aller-retour 60-50 km. Et que vous êtes au SMIC. Parce que la réalité, c'est que les petits salaires en province, c'est très souvent le SMIC. La réalité, c'est quoi? C'est que le carburant, c'est quasiment un tiers, pour ne pas dire beaucoup plus, de votre pouvoir d'achat mensuel. Donc là, c'est violent. Ensuite, il y a eu malheureusement, il faut quand même le dire, il y a eu l'épisode des Gilets jaunes où, partant d'un bon sentiment, parce que déjà à l'époque, ce problème de pouvoir d'achat, il faut le dire, les Gilets jaunes ont été matraqués, ont été extrêmement violentés par le système, par le pouvoir d'un point de vue général. Et donc du coup, vous avez, moi je ne comprends pas, pour être honnête avec vous, quand on voit le prix à la pompe aujourd'hui, je ne sais pas comment certains Français font. Et moi je me dis, c'est assez hallucinant. Soit c'est une lame de fond qui va nous arriver post-présidentielle,
oui, moi je pense,
ce qui à mon avis risque d'être le cas.
Moi, je pense.
Soit, en fait, les gens sont complètement dépités. Mais là, ça veut dire quoi? Rudy, tout à l'heure, parlait de déclassement. Ça veut dire qu'en fait, on va nourrir petit à petit une véritable paupérisation des Français. Et ça, c'est très mauvais parce que tôt ou tard, en fait, on va devoir le payer. Ouais. Et le problème, c'est que relancer une machine, relancer tout ça, faire baisser le prix du carburant et des énergies globalement, ça prend énormément de temps.
Ça demande énormément de budget. Hein.
Et alors, c'est là que je suis un peu dubitatif. Énormément de budget en vérité, c'est une question de volonté politique. Oui. Vous savez, il y a quelques mois.
C'est vrai quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, finalement, on en trouve pour amortir, je ne sais plus combien de milliards que Emmanuel Macron a sorti pour essayer d'endiguer un peu la hausse.
Mais moi, je pense
ça
ne
représente rien, en fait.
Je pense que tout simplement, on va y passer.
On va y passer.
Mais ce qui avait chauffé les Gilets jaunes, c'était l'augmentation du prix de l'essence. Donc on peut dire que les Français sont relativement gentils.
La différence entre l'augmentation du prix de l'essence qui avait eu lieu, justement, au début du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'elle était du fait d'un vote du gouvernement et puis d'un vote qui était passé derrière, alors que celle-ci, les Français savent qu'elle est due à des critères, à des raisons, on va dire, externes, ou en tout cas de la géopolitique, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas forcément la même réaction du public, même si, comme on l'a dit à l'instant, ça peut être quelque chose de légèrement différé. Donc c'est pas les mêmes causes.
Il y a aussi
autre chose que j'aimerais moi mettre en exergue, c'est que
les retraites,
il y a la baisse du pouvoir d'achat et puis la perception de son pouvoir d'achat et puis les chiffres. Je suis tombé sur un article alors de Libération, un journal qu'on peut pas qualifier d'être complaisant avec Emmanuel Macron et son gouvernement, qui revient sur une étude du très sérieux observatoire français des conjonctures économiques et qui évoque sur le quinquennat une progression du pouvoir d'achat. Alors toute classe sociale confondue de 0,9%. Alors bien sûr, les plus aisés auraient une plus grande progression que les classes les moins aisées, les plus populaires, certes, mais à l'échelle du quinquennat, les chiffres, d'après l'OFCE en tout cas, démontrent que le pouvoir d'achat a progressé. Alors il n'a peut-être pas progressé assez, et quand on se compare à nos voisins européens,
c'est une lecture qui est biaisée. Parce qu'en fait, ceux qui sont impactés par le pouvoir d'achat, ceux qui sont impactés par la baisse du pouvoir d'achat, ce sont les classes moyennes. Et en France, aujourd'hui, on voit
celles qui ont le plus bénéficié, dont le pouvoir d'achat aurait le plus augmenté, d'après cette étude.
En fait, elles ne le ressentent pas. Pourquoi? Parce que les prix ont augmenté. Mais c'est pas qu'un ressenti, c'est aussi du vécu. Pourquoi? Parce que les prix ont augmenté et leurs salaires n'ont pas eux augmenté.
Monsieur, juste
et
une phrase,
et les loyers
s'il vous plaît.
Ont augmenté.
Monsieur,
donc,
d'une phrase juste, amnistier le dernier sujet.
Mais on l'a bien compris. En France, et ce sont les classes moyennes qui sont les chevilles ouvrières du pays.
Juste sur le dernier sujet, un tour de table, il me reste une minute. Amnistier tous les gilets jaunes, ça, c'est une idée de Jean-Luc Mélenchon. Faye Tam Samani.
Moi, c'est des formules toutes faites qui veulent rien dire pour moi. Même si. Beaucoup de gilets jaunes ont souffert gratuitement, malheureusement, de la violence.
Rudy.
Les gilets jaunes ont eu le droit de manifester et eu égard à ce qu'ils ont subi sur le plan économique, Moi, je pense à l'échelle des siècles, il est important de pouvoir étudier ce genre de mouvement-là et de pas leur jeter le discrédit. Il faut comprendre ce qui se passe de ce point de vue, je pense que c'est totalement démagogique ce que propose.
C'est la parole d'un candidat à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle.
C'est surtout ça.
Moi, je vais continuer d'appliquer ma méthode, c'est-à-dire le cas par cas, la dissociation, pas parler des gilets jaunes comme un bloc monolithique et les prendre cas par cas. Si certains regardent leurs antécédents, leur situation méritent une forme d'amnistie. Ou en tout cas une clémence dans la peine qui sera prononcée, ils la méritent. Et si d'autres ne la méritent pas, bien, ils seront condamnés en conséquence. Mais faisons du cas par cas. Arrêtons la démagogie avec des mesures comme ça à quelques jours du premier tour.
Bon, ben merci messieurs. Désolé pour les auditeurs, on n'a pas pu les passer à l'antenne. En tout cas, désolé à vous. Ça va très vite, ça va. 19h54, Bilal Nenman, que vous allez retrouver dans une poignée de minutes. S'il veut venir, il peut annoncer son programme. Il a le temps. Merci Ménad Bouchénir.
Merci Adil.
Ancien élu de Rosny-sous-Bois.
Merci à
Rudy Kazi. Merci à Farid Temsamani. Messieurs, à très vite, hein, parce que attention, voilà, avant le premier tour, rapidement, le programme qui nous attend dans Time Sport.
Les 5 prochains finalistes pour prendre le billet pour le Qatar 2022.
C'est ce soir.
Et voilà, c'est ce soir. On va voir.
Aïe,
il y a la Tunisie, il y a l'Algérie.
Maroc-Congo,
ça va être chaud.
Match nul,
ça va être chaud ce soir. C'est avec Bilal Nenman, 20h-21h dans Time Sport.
Et à l'équipe de France qui
merci.
Joue aussi.
Oui, exact. À la réalisation, allez, c'est Giovanni. À demain avec autant de plaisir, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.